l'interdiction de la valeur ajoutée dans les filières agricoles et quels en sont les enjeux?
Eh bien, on peut revenir oui, sur quelques éléments de contexte. C'est en effet important pour comprendre pourquoi on en arrive à prendre des lois pour améliorer la répartition de la valeur ajoutée. Tout d'abord, on peut rappeler que les prix payés par les consommateurs sont de plus en plus déconnectés de ceux qui sont payés aux producteurs. Un chiffre pour illustrer cela, c'est qu'on estime que pour 100 euros de dépenses alimentaires par les consommateurs français, on génère environ seulement 6 euros de valeur ajoutée dans l'agriculture. Ce qui paraît très peu. Et pourquoi cela ? Eh bien parce que au fil des décennies et des changements d'habitudes de consommation, on s'est tourné vers des produits alimentaires qui sont de plus en plus élaborés, de plus en plus transformés, qui contiennent de plus en plus de services autres que le seul aspect production de matières premières agricoles. On a par exemple de plus en plus de frais en matière de communication, de marketing, de frais de distribution. Donc on en arrive à ce qu'on peut appeler une déconnexion entre l'aspect production et l'aspect consommation. Il y a de plus en plus de choses entre les deux. Et au final, ça a participé à un phénomène de baisse assez forte des prix payés aux agriculteurs depuis 50 ans, disons, depuis les années 70. À peu près 50% de baisse des prix payés aux producteurs en l'espace de ces 50 ans. Et à l'inverse, une relative stabilité ou une moindre diminution en tout cas des prix payés par les consommateurs, puisqu'ils ont, eux, de leur côté, diminué de seulement 10%. Et donc ça révèle ce changement dans la nature des biens que l'on consomme, des biens alimentaires que l'on consomme, et ça révèle aussi cet enjeu qu'on a mentionné de répartition de la valeur entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire, entre le maillon production, le maillon transformation, le maillon distribution. Entre ces différents maillons, ces différents acteurs, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, déjà, on peut mentionner que on a beaucoup d'agriculteurs. On a 450 000 exploitations agricoles en France, à peu près. Des agriculteurs qui sont assez peu regroupés, qui sont relativement atomisés. On a ensuite, dans l'étape d'après, 15 000 industries agroalimentaires. Et in fine, au stade de la distribution, quelques centrales d'achat qui pèsent lourd, étant donné leur nombre limité. Par exemple, 4 centrales d'achat qui regroupent 92% des parts de marché de la distribution. Donc, de fait, les agriculteurs se retrouvent avec un pouvoir de négociation qui est assez limité pour parler des prix, pour négocier leur prix de vente, ce qui engendre ce déséquilibre dans la répartition de la valeur ajoutée. Et dernier point pour expliquer cet enjeu aussi de la répartition de la valeur, c'est le fait qu'au cours de ces dernières décennies, on a des agriculteurs qui ont réalisé d'énormes progrès techniques qui leur ont permis de réaliser ce qu'on a appelé des gains de productivité. C'est-à-dire qu'avec moins de main-d'œuvre, ils ont pu produire plus en volume. Et cela a permis, cette progression a permis de fournir à des prix de plus en plus compétitifs des matières premières agricoles qui ont ensuite été donc vendues à l'industrie agroalimentaire pour réaliser ces produits de plus en plus transformés. Et ensuite partir vers la distribution ou encore la restauration hors domicile aussi, qui est un acteur important évidemment. Donc, devant tous ces enjeux, devant toutes ces problématiques, les pouvoirs publics, les gouvernements qui se sont succédés ont essayé par différentes lois de remédier à ces problèmes, étant donné qu'on a vu la disparition aussi de nombre d'agriculteurs entre-temps. de par cet enjeu de prix rémunérateur ou pas assez rémunérateur. Mais chacune de ces lois a eu ses effets pervers, ses échecs, et donc on en arrive à notre sujet actuel qui sont ces dernières lois de ces quelques dernières années.
Justement, donc, quelles mesures législatives ont été concrètement prises ces dernières années pour répondre à ces enjeux?
Eh bien, tout d'abord, en 2018, on a eu une première étape, la loi issue des États généraux de l'alimentation, qui avait regroupé au sein de plusieurs tables rondes de concertation les différents acteurs de la chaîne alimentaire, de la production jusqu'à la distribution et aux consommateurs. Et cette loi, elle a porté sur trois leviers. Le premier, c'était la contractualisation. Donc, il était prévu de renverser la logique de la construction du prix. Auparavant, l'initiative de proposer un prix d'achat du produit agricole devait revenir à l'acheteur. Et après cette loi, c'était à l'agriculteur de faire une proposition de prix à l'acheteur pour qu'il ait davantage de prise sur ce niveau de prix. Ça allait de pair avec le fait d'inciter aussi les producteurs à se regrouper pour peser davantage, à se regrouper en organisations de producteurs. Et ces organisations avaient le droit de négocier au nom de leurs membres des contrats auprès de Laval. Et toujours dans cet aspect contractualisation, on a introduit la notion d'indicateur de coût de production qui devait être mentionné dans ces contrats pour avoir des prix qui permettent de couvrir les coûts de production des agriculteurs. Le deuxième levier, c'était la limitation des promotions en grande distribution. Donc le constat a été fait que on avait des promotions qui étaient destructrices de valeur ou de perception de la valeur pour les consommateurs et qui mettaient une pression accrue sur les acteurs de l'amont, donc industriels et producteurs. Donc elles ont été limitées à la fois en volume, en valeur. Et le dernier point, c'était la relève du seuil de revente à perte. Alors, qu'est-ce que c'est rapidement ce seuil de revente à perte? C'est le fait qu'il est interdit de revendre des produits agricoles ou alimentaires en dessous de leur prix d'achat. Donc on a rehaussé ce seuil de plus 10% avec l'idée de forcer la distribution à faire donc un peu plus de marge sur des produits où ils en faisaient moins, pour redonner un peu d'air sur d'autres produits et faire en sorte que ça soit répercuté sur les niveaux de prix d'achat auprès des fournisseurs. Donc les résultats ont été assez mitigés, même si on manque encore de recul pour bien les mesurer. On estime que le fait d'avoir limité les promotions et d'avoir rehaussé le seuil de revente à perte, ça a généré à peu près 600 millions d'euros de surplus en prix payés par les consommateurs. Néanmoins, pour l'instant, il est estimé que ce surplus, il a été soit conservé par les distributeurs, soit rétrocédé aux consommateurs par d'autres leviers, par exemple des remises sur les cartes fidélité des clients de la distribution. Et donc pas redonné aux agriculteurs qui étaient normalement les principales cibles, les principaux destinataires. Donc voilà un constat mitigé pour la réussite de cette loi issue des États généraux de l'alimentation. Alors cette loi EGalim 2, donc elle est parue il y a quelques semaines. Elle va un peu plus loin dans la rénovation de la contractualisation, puisque dorénavant, la contractualisation écrite sera obligatoire. Dans la majorité des filières agricoles, il est possible que quelques-unes y dérogent pour des questions d'adaptation à leurs particularités. Mais voilà, elle deviendra la norme, cette contractualisation. Elle devrait être pluriannuel. Et les indicateurs de coûts de production ou de prix de marché devront être obligatoirement pris en compte dans ces contrats. Et le prix pourra être révisé à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution de ces indicateurs. Donc voilà, c'est l'étape d'après, la deuxième génération de contrats, pour ainsi dire, pour essayer de mieux prendre en compte les coûts de production des agriculteurs et leur permettre d'avoir des prix qui soient plus rémunérateurs. Le deuxième pan, le deuxième volet important à mentionner pour cette nouvelle loi, c'est qu'elle vient modifier le cadre de la négociation commerciale en aval, donc ce qui se passe après le maillon production. Et là, les acteurs de l'aval ne pourront plus, lorsqu'ils négocient entre eux leur contrat, cette négociation ne pourra plus porter sur le prix de la matière première agricole. Donc l'idée du législateur, c'est de protéger, de sanctuariser, pour ainsi dire, le prix de la matière première agricole pour enlever de la pression de négociation sur cette partie-là du produit. Et enfin, on peut aussi mentionner le fait que on va expérimenter un étiquetage qu'on va appeler RémuneraScore, un étiquetage des produits alimentaires qui affichera le niveau, en tout cas, de rémunération du producteur dans le produit alimentaire acheté par les consommateurs, puisque on sait que c'est un critère, ça fait partie des critères d'achat des consommateurs qui veulent s'assurer que lorsqu'ils achètent un produit, on a de bonnes conditions de rémunération du producteur derrière. Donc ça va être expérimenté, ce système d'étiquetage en viande bovine pour l'instant. Et puis, on verra ensuite si ça fonctionne, si c'est amené à être généralisé pour d'autres produits. Bon, mais ça soulève quand même un certain nombre de questions, toutes ces mesures, puisque la contractualisation, si elle permet de protéger les débouchés des producteurs, elle n'enlève tout de même pas le fait qu'il reste une négociation entre le producteur et son acheteur, et donc que des rapports de force peuvent continuer à opérer, et notamment sur, eh bien, comment on va prendre en compte les indicateurs de coûts de production, quelle formule en fait on va appliquer à ces indicateurs de coûts de production pour calculer le prix de vente. Donc, il sera très important de suivre la mise en place de cette loi et de voir dans les années à venir quels effets elle aura.